find it mean. He ran my love, mannequin style, so now I burn, 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 burn. To never return. A harvest man,
burn, burn, every
his cracking whip has marked my back.
Burn, burn, every
oh, I was taxed for piles
burn,
of cash,
burn,
so I got a can of gasoline to burn,
burn, burn, burn.
Hmm, and never return.
Bienvenue dans C'est de la locale, il est 18h, nous sommes en direct jusqu'à 19h. Je me présente, je m'appelle Rémi et ce soir je suis avec Héloïse.
Salut.
Et je suis aussi avec Thomas.
Oui, bonsoir.
Ah non, c'est pas le bon.
Ça commence bien.
Ah, c'est bon.
C'est le rouge.
Oui, bon, ouais.
Oui, bonsoir.
C'est quand les stagiaires sont aux commandes.
Sinon, au programme, c'est comme d'hab, des actus, de la musique, des interviews. Si vous voulez nous écouter aux alentours d'Alençon, c'est 90 FM et dans le reste du monde sur notre site internet radiopulse.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre et communiquer avec nous via les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, Discord et Facebook. Toutes les actus, les albums à gagner se font sur la page Facebook C'est de la locale. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour être au courant des nouveautés et des thèmes de l'émission à l'avance.
Exactement, et aujourd'hui nous allons vous passer l'interview de Rachel, chanteuse et compositrice du duo Dahlia qu'elle forme avec Simon. Pour commencer, quand et comment est né le duo Dahlia ?
Alors en fait au départ, moi j'ai commencé à travailler seule. En fait, au tout début j'avais un groupe de rock et j'avoue que j'en avais un petit peu marre. J'avais l'impression d'avoir fait le tour de mes influences rock, on va dire, et je suis tombée un peu sur les logiciels de musique de MAO, et j'ai commencé toute seule, donc c'était très empreint de rock à l'époque quand j'ai commencé à composer toute seule chez moi, sur les logiciels de musique, sauf que moi, c'est important pour moi de partager la musique avec quelqu'un, et notamment même dans la création des morceaux. Et donc, j'ai souhaité, après ça, rencontrer un autre musicien. Et je voulais vraiment que ce soit une batteuse, soit un batteur. Et j'ai rencontré Simon à Paris. Un an et demi plus tard, après les tout premiers morceaux. Et puis, ça lui a beaucoup parlé artistiquement. Mmh. Et on a commencé à travailler ensemble. Et vraiment à penser tous les deux ce projet. Donc, qui est vraiment orienté... c'est de la dark électro, mais entre la cold wave et le hip-hop.
D'accord. Une rencontre qui a super bien matché, en fait.
Ouais, tout à fait. Rachel, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique, de chanter, de composer ? Est-ce une passion depuis petite ou bien quelque chose que tu as découvert plus tard ?
Alors, moi, c'est vraiment arrivé très, très, très jeune. Je pense que j'ai écrit mes premières chansons à 10 ans, quelque chose comme ça, en français d'ailleurs à l'époque. Et j'ai toujours voulu faire ça en fait. C'est vraiment quelque chose qui était présent dans ma famille, pas nécessairement de musicien de métier, mais vraiment, vraiment un amour de la musique, en fait, qui m'a été transmis très jeune, des souvenirs, ou même bébé, j'étais la tête posée sur les enceintes, quoi. Donc c'était vraiment... Voilà, très tôt.
D'ailleurs, vu que tu nous as parlé que à 10 ans, tu écrivais des musiques en français, est-ce que peut-être un album en français est envisageable ou pas du tout ?
Oui, oui. Moi, j'aime bien écrire en français, mais je pense qu'il faut tout un travail d'écriture en français qui me semble différent de l'écriture en anglais. Mmh. C'est pour ça que je prends mon temps. Mais oui, c'est envisageable. J'aimerais bien, en tout cas.
D'accord.
C'est quelque chose qui m'intéresse.
Trop bien.
Quelles sont tes plus grandes inspirations artistiques, Rachel ?
Alors, mes plus grandes inspirations artistiques, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup dans des genres différents, mais je vais quand même donner plusieurs noms. Moi, il y a Lana Del Rey, qui m'a énormément marquée en pop. Vraiment, c'est une artiste à la fois mélancolique, mais je trouve... Enfin, vrai quand même, et pleine de richesse dans tout ce qu'elle peut faire, même encore aujourd'hui, je veux dire, pas seulement ses albums qui ont le mieux marché. Il y aurait aussi, dans un tout autre genre, Nico, des Velvet Underground, parce que je trouve qu'elle a un univers tellement mystique, je pense qu'il se retrouve aussi dans Dahlia et qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et alors, en français, pour moi, c'est Étienne Dao. C'est vraiment très, très, très important. Je pense que c'est vraiment une sorte de peur musicale, quoi. Vraiment très important et que j'ai toujours, toujours entendu depuis toute petite.
D'accord. Bah justement, j'allais te poser une de mes questions préférées qui m'intrigue le plus, c'est qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais adolescente ?
Alors... moi, j'écoutais beaucoup de choses adolescentes. En fait, j'ai été nourrie par vraiment deux genres très différents, le R&B, le hip-hop et le rap français. Mm-hmm. Et à côté, tout ce qui était rock. Par exemple, j'ai été très, très marquée par les albums d'Indochine, qui étaient aussi très new wave. Tout l'album L'Aventurier, Le Péril Zone, tout ça, j'ai été énormément marquée par ça. Mais aussi par toute la vague de R&B qui passait sur les radios, quoi, et qui était présente. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que finalement, il y a dans mes influences, il y a une vraie synthèse. Par exemple, moi, je suis une grande, grande fan aussi d'Aza Proki, de Nicki Minaj, de rappeuses comme Princess Nokia. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus trop de barrières entre les styles.
Oui, tout est diversifié.
Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que finalement, on a tellement un accès à la musique qui n'est plus... on a un vinyle et on le découvre de A à Z. Là, c'est vrai que... Et ça avait son charme, hein, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à tout, en fait. Mmh. Donc finalement, que des genres hybrides naissent, ça me semble... attendu, en fait.
Est-ce que pour toi et Simon, la musique est un moyen de s'exprimer ou de dénoncer, comme on a pu le remarquer sur le titre Hide My Face ? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que vous souhaitez clairement exprimer à travers ce titre ?
Oui, alors, bien entendu, le fait d'écrire, pour moi, de toute façon, c'est une manière d'exprimer et de défendre certaines choses. Moi... le titre « Hide My Face » parle des violences conjugales et de toutes les relations pathologiques qui peuvent s'instaurer entre deux personnes. Bien sûr, cette chanson, elle est à la base féministe. Enfin, elle défend la cause des femmes, mais de tout être humain, en fait. Des hommes aussi qui peuvent être dans des situations d'emprise, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut également arriver. Et c'est vrai qu'il y a une vraie volonté aussi de traiter de certains sujets, mais pas d'une manière édulcorée, en fait. De vraiment, ce morceau, il peut être assez lourd et assez dur et cru dans ses paroles, et le clip l'est également, dérangeant. Et c'est justement ce qu'on voulait, c'est-à-dire que l'art n'est pas obligé d'être édulcoré et davantage, c'est une demande quand même assez permanente, je trouve, en tout cas vis-à-vis des femmes. C'est-à-dire quand il y a une femme qui chante, on va lui demander régulièrement d'être mignonne, de se conduire, comme ce qu'on attendrait du stéréotype de la femme. Et finalement, ça me gêne beaucoup. Mmh. Donc c'est à la fois tous ces combats en fait personnels, mais qui sont défendus dans cette chanson.
Et justement, j'allais vous demander, pensez-vous qu'être féministe en France, c'est encore aujourd'hui mal vu alors qu'on est en 2021? Et moi, je trouve que c'est encore un sujet parfois tabou et vraiment mal vu. Vous en pensez quoi?
Ah oui, je pense que c'est encore mal vu, malheureusement. Mmh. Pas pour tout le monde. Je trouve qu'il y a quand même, moi en tout cas, ce que je remarque, c'est que il y a beaucoup moins d'hommes qui ont peur ou qui, des féministes dans le sens où il y a vraiment de plus en plus d'hommes, moi je trouve, qui se questionnent là-dessus et qui vont vraiment réfléchir à ces questions. Et ça, c'est fondamental, parce que sans qu'il y ait ce partage, la cause féministe pourra pas avancer. Mais il y a des choses qui restent ancrées, toute la question par exemple des poils, il y a des choses qui restent fondamentalement difficile encore, je pense, pour certaines personnes, et pas que pour les hommes. Il y a des femmes aussi qui sont misogynes, ça faut pas l'oublier aussi. Mais voilà, c'est encore, moi je trouve que c'est encore important. Y a pas mal de personnes qui m'ont dit non, mais attends, les combats féministes, on enfonce des portes ouvertes. Mais c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, en tant que femme, on n'est pas payée comme les hommes, on n'est pas respectée et on ne peut pas marcher tranquillement dans la rue et avoir cette liberté. Donc pour moi, c'est encore quelque chose de fondamental, en fait.
Ah, mais je suis d'accord que le combat, il n'est pas terminé encore.
Je suis tout à fait d'accord aussi. Je pense que certains hommes ont besoin justement d'être éduqués sur ce sujet-là, et c'est une bonne manière de le faire par le vecteur de la musique.
Et le message, en général, en tant qu'artiste, à travers votre EP, c'est...
En fait, le message, je dirais qu'il y en a, vraiment plusieurs. Enfin, c'est vraiment pluriel, dans le sens où ça traite de divers thèmes qui sont vraiment orientés aussi sur la vie vraiment interne. C'est-à-dire, j'évoque dans cette EP... autant le féminisme, comme on a pu le dire, mais aussi les angoisses existentielles, la créativité, le deuil, la mélancolie, la créativité aussi pour se sortir de situations qui paraissent complètement impossibles. Ça traite vraiment de thèmes divers, mais qui restent toujours du côté de l'intime, en fait, des émotions, et c'est vrai qu'il y a des messages, et après chacun peut se saisir des images ou des mots entendus comme il souhaite, même si effectivement il y a des vrais messages aussi derrière.
Je trouve justement que le titre, comme le clip de Sublimation, est très chargé en émotions, et c'était l'intention de ce titre et de ce clip.
Oui, parce que effectivement, justement, comme je le disais tout à l'heure, ça parle vraiment de la créativité qui peut, permettre d'avancer dans sa vie, mais dans plein de domaines différents. Et la sublimation, c'est ça, c'est vraiment se servir de la créativité pour globalement aller mieux dans des périodes sombre. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a parlé, parce que finalement, là, particulièrement actuellement, on est quand même dans une période assez sombre avec le contexte sanitaire. Je pense que ce qui nous reste à chacun, c'est aussi la créativité et l'importance que ça a. Et l'importance aussi, moi j'appuie dessus, mais que la culture a dans nos sociétés, même si la politique n'en tient pas compte, à mon sens, assez. Mais c'est vraiment l'art permet véritablement de sauver l'humain. Moi, j'en suis intimement persuadée, mais après, c'est une question personnelle. Donc voilà.
Je suis d'accord. Je trouve que dans ce clip, d'ailleurs, on peut tous un peu se reconnaître Et même, je trouve qu'il va très bien avec la période, justement. Vous, comment la crise sanitaire du Covid-19 vous a-t-elle impacté et a impacté la sortie de votre EP?
Nous, ça nous a énormément impacté dans le sens où on est un groupe qui reste en développement. Donc, on a eu effectivement les dîners du printemps de Bourges et après, on devait enchaîner sur des dates en Europe et puis ça s'est stoppé complètement. Après, voilà, c'est pour tout le monde, donc je me sens pas plus affectée que d'autres artistes. Je veux dire, c'est vraiment difficile pour tous les intermittents, pour toutes les personnes avec qui on est en lien, avec qui on travaille, nos ingénieurs. C'est une période qui est inouïe, quoi. Enfin, qui est vraiment très très bizarre pour le monde de la culture. Nous, ça nous a impacté dans le sens où effectivement, on peut pas défendre notre EP sur scène, ce qui est bizarre parce que quand on sort un EP, habituellement, on joue. Mm-hmm. Mais moi, je pars du principe que, disons que j'utilise ce temps d'enfermement, si je puis dire, pour créer, composer et ne pas m'arrêter, justement. Essayer en tout cas d'être le plus possible dans la création.
Et justement, comment est-ce que vous trouvez votre inspiration dans des temps si difficiles?
Vraiment, c'est une question intéressante parce que je me la suis clairement posée. C'est-à-dire que j'ai énormément composé ces temps-ci et je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, on s'enrichit aussi des concerts qu'on va voir, des films, des pièces de théâtre, enfin de tout ce qui peut nous toucher et nous orienter en tant qu'artiste. Et là... C'est vrai que c'est difficile. Alors moi, ce qui m'aide énormément, c'est les podcasts de France Culture. Où vraiment, là, il y a des lignes d'or, quoi. Et également Arte. Enfin, moi, je suis vraiment fan d'Arte. Et du coup, c'est les moyens de me cultiver et d'aller voir ce qui se passe, des choses que je connais pas et qui peuvent vraiment me toucher et m'influencer, quoi.
En fait, le confinement, c'est un peu soit on arrive à trouver l'inspiration ailleurs et à créer, soit je pense que j'avais entendu certains artistes dire qu'ils avaient justement totalement un blocage, comme ils savaient qu'ils avaient du temps pour écrire et du coup ils n'y arrivaient plus.
Oui, je comprends aussi. C'est vrai que de toute façon, on ne peut pas non plus être toujours productif. Il faut aussi se laisser aller à ce moment qui est complètement inouï et étrange et parfois rien faire aussi. Je pense que dans tous les cas, on est tout le temps dans notre société sur, avec les écrans, etc. On doit tout le temps être concentré et surdynamisé par plein de choses. Et c'est vrai que là, tout s'arrête d'un seul coup et c'est assez bizarre. C'est étrange.
Tout à fait. Est-ce que vous pensez que justement toute l'inspiration, enfin, que je pourrais dire, les artistes qui ont été bloqués justement par cette période-là, est-ce que vous pensez que dans le futur, il y aura peut-être un déblocage par rapport à ça, ils vont continuer à en parler dans les musiques et ça va devenir une nouvelle source d'inspiration?
Peut-être, je ne sais pas trop. C'est vrai que... Enfin, dans tous les cas, ils ne seront pas bloqués à vie, j'espère. Parce que sinon, c'est dur. Mais moi, c'est vrai que le confinement et tout ça, ça ne m'a pas inspiré des chansons, par exemple. Le confinement en soi, je veux dire, le thème du confinement. Et, c'est vrai que c'est curieux d'être enfermé. C'est vrai que... Mais c'est plutôt, qui pourrait être dit par rapport au contexte. Au contexte politique, au contexte sur le confinement, peut-être pour certains artistes, c'est possible.
Comment vous décririez votre EP Hide My Face en trois mots?
Alors, mystique, réverbéré et aérien.
Okay.
D'accord.
Oh, très bien écrit.
Si vous pouviez faire la première partie de n'importe quel groupe, on oublie le Covid, on oublie tout ça. N'importe quel groupe, n'importe quel artiste, ce serait lequel et pourquoi?
Oh, ça c'est difficile parce que j'en aime tellement. Moi je pense que ce serait Etienne Dao. Je pense que Simon dirait autre chose. Moi j'aimerais beaucoup faire la première partie de ces artistes qui ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment marqué du côté de l'intime, enfin vraiment dans leurs paroles. Et c'est vrai que des textes de Tien Dao, il y en a qui m'ont vraiment marqué à vie, je pense. C'est comme ça. Donc je pense que moi je dirais Tien Dao.
D'accord.
Et
Simon, il dirait quoi?
Il y en aurait plein d'autres. Que dirait Simon? Je pense que lui, il dirait plutôt un groupe plus orienté Cold Wave. Mm-hmm. Il est plutôt du côté du post-punk et de ces influences-là.
D'accord.
Donc je pense qu'il dirait un groupe plutôt dans cette vague-là.
D'accord.
Ok. Peut-être un petit teaser sur un futur album ou un futur projet, non?
Oui, ben on est. Enfin, là, je compose pour notre album. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il sortira, étant donné que on attend quand même toutes les dates pour savoir comment orienter les choses. Mais il y a déjà pas mal de morceaux de composés nouveaux. Voilà.
Donc, trop bien.
Super.
On est impatients. Merci à Rachel d'avoir répondu à nos questions. Je vous laisse tout de suite avec le titre Sublimation de Dahlia. C'était le titre Sublimation de Dahlia, ou Sublimation pour ceux qui veulent un petit accent anglais.
Cette radio fait partie de la Ferraroc, la fédération des radios associatives Musique Actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferraroc.org.
Et maintenant, je vais vous parler de l'Eurosonic. L'Eurosonic, c'est le festival par excellence qui découvre les artistes émergents européens et de talents de demain. Du 13 janvier 2021 au 16 janvier 2021, plus de 150 artistes sont représentés pour cette édition inédite qui se déroulera pas aux Pays-Bas cette année, mais en ligne. Cette année, nous n'aurons donc pas donc le plaisir de vivre en réel les concerts, mais l'avantage que les concerts soient accessibles à tous et entièrement gratuits. C'est l'événement pour faire le plein de découvertes. Plus d'une dizaine de pays européens représentés, l'Italie, l'Autriche, Pays-Bas, Belgique, la Grèce, Suède, Ukraine, Allemagne, Arménie et Portugal. On retrouve 7 artistes français dans la programmation, dont les talentueux garageux psyché toulousains de Sliff ou encore Samba de la Muerte que nous avons pu avoir fait découvrir en septembre dernier pour la sortie de leur album Electropop A Life with a Large Wide Opening. Bref, il y en aura pour tous les goûts et le maître mot du festival est la diversité musicale. Pour ce qui est des conférences, l'Eurosonic propose aussi un accès aux conférences autour des tables rondes comme pour les femmes de la musique, les succès de certains formats de festival malgré le Covid, la culture face aux problèmes climatiques menée par un fort panel d'intervenants. Voilà, retenez bien que jusqu'au 16 janvier, vous pouvez assister au festival Eurosonic de chez vous, dans votre canapé, sur votre télé ou au bureau de votre ordinateur ou encore aux toilettes sur votre smartphone pour ne rien louper du festival. Tout ça gratuitement en plus. Je vous laisse tout de suite avec le titre Fast de Samba de la Muerte.
Et je voudrais rajouter qu'il y a aussi le festival Stellar, donc Nano, qui est un festival d'art contemporain entièrement numérique. Donc il est sur les réseaux sociaux, vous tapez Stellar Festival Nano et vous allez trouver. Et tous les soirs, vous pouvez découvrir 3 artistes différents, de la poésie, de l'art, de la musique, de tout. Donc allez voir.
Ok, bah merci beaucoup. Je laisse la main à Thomas qui va nous présenter un morceau.
Ouais, on va retourner un peu dans les années 2011, l'année où j'étais au collège. Je me rappelle, j'avais ce son dans mes écouteurs pendant que j'allais au collège avec le vieux MP3, vous connaissez, vous vous rappelez. Hein.
Bah oui, qui s'en souvient pas.
Voilà. Et en gros, je vais vous présenter, ça s'appelle le nom du groupe c'est The Rasmus. C'est un groupe finlandais de rock alternatif. Inclus sur le 5e album de studio, le groupe Dead Letter. C'est un single qui a remporté un succès considérable, notamment avec une chanson qui s'appelle In the Shadow.
Until I'm done with finding the answer. Won't stop
Et voilà, c'était In the Shadow de The Rasmus. Franchement, j'adore cette chanson. Je suis dans un état, vous pouvez pas imaginer.
On était sur une grosse ambiance de Thomas.
Ouais, pareil. Bah, tout le monde dans le studio, Samine. Une grosse nostalgie à tout le monde. On va passer maintenant l'interview de l'Escape Game Chronophage à Alençon. Et j'espère que ça vous plaira.
Aujourd'hui, nous allons écouter l'interview de l'Escape Game Chronophage situé à Alençon, 10 avenue Koutiala, qui vont nous parler de comment ils vivent cette période assez compliquée. J'aimerais savoir comment vous est venue l'idée d'ouvrir un Escape Game.
Eh bien, on était déjà un peu ancré dans le monde du loisir avec un parc de jeux en extérieur. Et on cherchait du coup à développer cette activité en nous tournant vers quelque chose en intérieur pour tourner toute l'année. Et du coup, en cherchant un petit peu les activités possibles, on a fini par se diriger vers l'Escape Game.
Mais c'est vrai que c'est pratique, ici, surtout en Normandie, vu qu'il pleut toute l'année.
Ouais,
c'est bien. Exactement.
Et du coup, pour les personnes qui sont justement pas familières, qu'est-ce qu'un Escape Game ?
Alors, un Escape Game, c'est un jeu d'évasion où on est enfermé en fait dans une salle qui est thématisée. Et le but est de résoudre des jeux et des énigmes pour arriver à s'en échapper, à sortir de la salle en un temps imparti.
Ok.
Et pourquoi vous avez décidé de le faire ici, à Alençon ?
Eh bien, parce qu'on était déjà sur place. On vit en fait à Alençon. Notre autre parc est également aussi proche d'Alençon. Du coup, on voulait rester dans le même secteur. C'est aussi parce que c'est une activité qui n'est pas très répandue dans le coin et que du coup, bah, y avait un marché intéressant à développer.
D'accord.
D'accord. Est-ce que vous savez quels sont les différents thèmes proposés dans l'Escape Game ? Enfin, je parle de votre établissement.
Alors nous, nos salles, on en a deux actuellement en fonction. Donc la première, c'est une prison médiévale, le cachot des ducs. Mmh. Et la deuxième, c'est une mission d'exploration dans une grotte qui s'appelle du coup la caverne d'Hernán Cortés.
Oh. Et du coup, c'est quoi vos inspirations ? Vous vous inspirez de certains univers que vous aimez bien ou de ce qui est peut-être un peu plus tendance ? Comment vous choisissez vos thèmes ?
Alors, pour le cachot, la première des salles qu'on a montées, on est parti un peu sur le château des Ducs, donc d'Alençon, un peu l'histoire locale. C'était notre première inspiration. Et puis, la deuxième, c'est en réfléchissant, en fait, à la base sur un thème de piraterie. Et finalement, au fur et à mesure, on a fini par développer complètement autre chose. Et on est parti, du coup, sur une grotte à explorer.
D'accord.
Ok, il y a différents niveaux de difficulté ou pas ?
Alors, la difficulté, elle est assez élevée. Et nous, en fait, on adapte en tant que Game Master. On adapte avec les indices, tout ça, on simplifie en fonction des joueurs. Comment les joueurs se débrouillent, on simplifie un petit peu au fur et à mesure.
Est-ce que vous, par exemple, vous modifiez en fonction de l'âge ?
Alors... on change pas le jeu en fait, c'est juste les indices qui vont varier, c'est la façon dont on va aider le joueur à avancer qui va changer, en tout cas chez nous.
Est-ce que pour l'Escape Game, c'est pour tout le monde, pour les enfants, les ados, les adultes, est-ce qu'on peut s'amuser à tout âge ?
Alors il y a quand même une limite, on prend à partir de 8 ans, pour qu'il y ait quand même une certaine logique dans la façon d'avancer.
Ok.
Mais sinon, après, non, il n'y a plus. Après 8 ans, on prend jusqu'à tout âge. N'importe qui peut jouer à l'Escape Game.
On peut venir en famille, en amis, entre collègues. Et...
Tout à fait.
Trop bien.
D'accord. Quelle est, selon vous, la tranche d'âge la plus présente dans votre Escape Game ?
Alors, la plus présente, c'est entre 20 et 40 ans, à peu près. La plus présente. Sinon, après, on a aussi des familles, donc avec des enfants, avec les grands-parents aussi qui amènent leurs petits-enfants, etc.
Trop
etc.
Bien. Faire un escape game.
On peut recevoir vraiment tout le monde. Mm-hmm.
Et on va parler des sujets qui fâchent, du coup. Comment vous avez vécu l'annonce du premier et du deuxième confinement ?
Eh bien, le premier confinement, bah, du coup, que ce soit le premier ou le deuxième, on se fait une raison. Hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix, mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile. Comme je ne sais pas si vous le savez, mais on a ouvert au mois de février et donc fermé en mars. Donc forcément, nous, c'est un peu un coup dur, puisque on tourne très peu du coup en cette première année. Mais bon, on s'accroche et puis on a quand même droit à quelques aides, donc on peut avancer.
Mais est-ce que vous avez pu rouvrir cet été, oui, non?
On a ouvert un petit peu, oui. On a ouvert de juillet jusque là au deuxième confinement.
Et les clients?
Pour la tournée, oui.
Les clients, ils étaient un peu stressés ou comment vous sentez le comportement des gens justement face au Covid dans...
Bah, les gens, je dirais, sont plutôt plus inquiets que stressés, mais c'est sûr que ça dépend aussi de quel côté ils sont. Ce que je sais, les professionnels sont plutôt tendus, parce que forcément, la situation est compliquée pour les entreprises. Après, nous, en tant que personnes, on patiente, tout simplement. Mais bon, ça... quelle option avons-nous sinon en dehors de ça?
À part attendre, là...
Et justement, on va parler un petit peu d'avenir. Qu'est-ce que vous attendez de 2021?
Alors, on a en projet de développer on a une troisième salle, en fait, qui est en cours de travaux.
Ah, très bien.
Donc, on a en projet de développer encore un autre thème. Pour l'instant, je vais le garder pour moi. Le temps qu'on le mette en place. Mais on a quelques projets de développement qu'on installe au fur et à mesure.
Donc il y aura des surprises pour 2021.
Voilà, exactement. Okay.
Si vous deviez décrire l'expérience de votre escape game en trois mots, ce serait lesquels?
Je dirais le plaisir, la réflexion, puis le partage.
D'accord.
Oh, pas mal du tout, ça donne envie.
Ouais, tout à fait. Faudrait peut-être qu'on y aille quand même, pour voir ce que ça donne.
Faut attendre que ça ouvre.
Ouais, ouais.
Non, en plus, j'ai jamais fait... C'est vrai que les escape games, c'est en pleine croissance. Enfin, je sais pas comment dire, ça vient... En vrai, c'est un peu nouveau comme système. Moi, j'en ai jamais fait, je connaissais pas il y a quelques années.
C'est une activité, ouais, qui se répand de plus en plus, qui est très sympathique à vivre et qui, du coup, donne envie, voilà. Et
en tout cas, ouais, ça donne envie. Ça donne envie d'y aller.
Je peux rajouter qu'on peut retrouver toutes les informations sur notre site internet. Tout y est indiqué, donc c'est chronophage61.fr.
Okay. Et vous êtes sur les réseaux aussi, les réseaux sociaux. Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux?
On a aussi une page Facebook et un compte Instagram.
Et bah parfait, du coup. Si vous avez envie, après le confinement et tout, le bordel de vous amuser en famille ou entre amis, vous savez où aller.
Le langage, Héloïse, on est à la radio. Merci beaucoup en tout cas.
Voilà, c'était l'interview de l'escape game Chronophage situé à Alençon, 10 avenue de Coutiala.
Et voilà, écoutez, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je crois que Thomas a quelque chose à nous dire.
Eh oui, parce que j'ai découvert un truc qui est fou, je ne connaissais pas avant. Ça s'appelle les Darwin Awards. Bon, vous connaissez tous les Oscars, les Césars et les Grammy Awards, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous connaissez Darwin? Darwin et sa théorie de l'évolution qui montre qu'on a beau être évolué, l'humain reste con. Et particulièrement dans la mort. Donc aujourd'hui, sur Radio Pulse 90 FM, sur Alençon, je déclare ouverte l'édition 2021 des Darwin Awards. Et ensemble, nous allons
choisir. Pas croyable.
Et ensemble, nous allons choisir qui a eu la mort la plus con de 2020.
Oh mon dieu!
Les nominés sont tué par sa maladresse à Détroit, un homme de 41 ans est mort, noyé dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans une bouche d'égout pour, je cite, récupérer ses clés.
Oh non, c'est pas vrai!
Tué par le sport, un agent de change de San Francisco qui, d'après sa femme, faisait le vide total dans sa tête quand il courait, s'est tué pendant son jogging en tombant d'un ravin de 60 mètres.
Magnifique!
Le tueur à la saucisse, un voleur à San Francisco qui vole un hot dog. En courant, il loupe le trottoir et s'étouffe avec une saucisse de 15 cm.
Oh mon dieu.
Oh là là, c'est après. On a dit ne pas courir avec...
Quelque chose dans les mains?
Des saucisses, essayez de suivre. Mort à cause de ballons bien gonflés, un révérend brésilien a essayé de battre le record le plus long vol accroché à un ballon de baudruche, soit 19 heures, attaché à 1000 ballons gonflés à l'hélium. Il s'est lancé, s'est pendu, et s'est perdu, parce qu'à 1000 mètres, voilà, quand on tombe, ça fait mal.
Alors ça me trouble.
Mais on reste avec les prêtres, parce qu'il y a un prêtre qui s'est dit « Dieu me protège, alors je marche sur l'eau ». Il a marché sur l'eau, il s'est noyé.
Magnifique! Continuons.
un scientifique a décidé de prouver que la Terre était plate. Pour ça, il s'est accroché une fusée dans le dos. Sauf que les fusées, ça explose.
Mais mon Dieu, y a-t-il quelqu'un d'encore plus con, Thomas ?
Encore plus con ? Oui, un homme se faisait à manger, il allumait le gaz, une mouche est apparue. Il a pris sa raquette électrique pour éclater sa grand-mère à la mouche. La mouche s'est posée sur sa gazinière et avec l'étincelle de la mouche. Boum !
J'espère que la mouche a survécu ?
On ne sait pas.
Oh merde ! C'est incroyable ! Eh bien écoutez, est-ce que tu as d'autres Darwin à donner ?
Non. Et le grand gagnant du Darwin Award 2021 est... Roulement de tambour s'il te plaît Rémi. Le voleur de saucisses !
Magnifique ! Wouh ! On l'applaudit bien fort.
Et j'espère que l'année prochaine, il y aura autant de gentils comme ça. C'est magnifique, j'adore.
Les gens sont bêtes quand même.
Ben, écoute,
enfin, les humains.
On espère au moins, j'espère pour vous que vous n'arriverez jamais dans ce top. Et bon, pour les auditeurs, on va vous calmer un petit peu.
Moi, c'est mon objectif de vie perso, je veux être dans le Darwin Award.
C'est ton objectif. Nous allons passer maintenant Manu Digital avec quel morceau, Héloïse ?
Avec le titre Nouméa Hotel ou Hotel Nouméa qui est sorti de l'album qui se nomme Dubtrotter car il a été créé dans les quatre coins de ce monde à la manière d'un globetrotter.
Thank you.
Et voilà, c'était Manu Digital avec son titre Nouméa Hotel Room. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je me présente, je m'appelle Rémi, et je vais vous présenter un album que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Iron Monkey, du même groupe, sorti en 1997. Et du coup, je dédie cette chronique au feu chanteur de Iron Monkey, qui s'appelle John Morrow, qui est décédé malheureusement en 2002. Donc dans la crasse de Nottingham, une révolte musicale se prépare. Enfermés dans un local depuis 1994, les freaks d'Iron Monkey façonnent leurs armes à base de punk rock et de Black Sabbath. La formation du groupe de l'époque, Johnny Morrow au chant, Doug Dalziel à la basse, Justin Greaves à la batterie, Steve Watson et Jim Rubshy à la guitare, nous balancent leurs premiers méfaits du groupe de manière totalement expéditive avec cet album que je vais décortiquer pour vous. Pour commencer, je pense que quelques précisions s'imposent. Ce style, enfin le style dans lequel le groupe officie s'appelle le sludge metal. Le sludge est un sous-genre du metal basé sur la fusion de deux styles oxymoriques, le doom metal qui est assez lent, pesant, atonique et hypnotique, et le punk hardcore, rapide, énergique, énervé et revendicateur. Et les musiciens classent eux-mêmes leur album dans ce style. C'est un pari réussi puisque le premier morceau, Think Dial, est un concentré de ce style, encore à ses balbutiements. Mais les autres morceaux ne sont pas en reste. Big Loader, Black Aspirin et 666 Pack suivent très bien dans la même ligne de conduite propre au style et se placeront en pionnier dans la définition de ce style. Le plus gros point fort de l'album sont quand même les mélodies qui alternent entre groove rapide et mid-tempo et des mélodies pesantes et dissonantes. Tout ça pour venir assombrir la magie noire du style qui réside dans l'alternance des deux mélodies typiques. La batterie matraque sur tout l'album, une rythmique basée sur la grosse caisse et la cymbale crash qui renforce les morceaux et tous les autres instruments, avec un son particulièrement groovy et totalement raw sur les guitares et avec un chant divinement acide. Les morceaux sont ponctués par des solos simplistes, cohérent, pas besoin de fioritures dans ce style qui se veut brutal, dur, inaccessible et comme taillé dans le gras. Il n'y a pas de concession, et le groupe n'hésite pas non plus à user de l'arsène pour commencer ou finir les morceaux, ce qui sera considéré ensuite comme un trademark du style. Le chant est aussi un très très gros point fort de l'album. Johnny Morrow nous donne l'impression d'avoir une lame de rasoir bloquée dans la gorge. Son chant, ou plutôt ses cris et grognements, sont poussifs, torturés. Cela renforce le côté vraiment super agressif de cet album de Sludge, qui est en fait un album à part entière pour sa technique vocale. Tout y est incisif, putride, agonisant, poussif, nihiliste, comme un cadavre pris au piège dans du fil de barbelé rouillé. C'est tout ce qui fait un bon album de Sludge. Des riffs groovy et pesants, une section rythmique brutale, un chant caverneux. C'est pourquoi cet album reste le meilleur dans ce style, derrière le Take As Needed For Pain Diet God en 1993 et devant le Hootchelaga des Québécois de Dope Throne sorti en 2015. Et tout de suite, je vais vous diffuser le morceau Think Dial qui vient inaugurer la folie de nos amis britanniques. Longue vie à Iron Monkey et longue vie au Sludge Metal.
Yeah! voyelles.
U, consonne. L, consonne. S,
voyelle.
E,
5. Pas mieux. Pulse.
Eh bien, on poursuit et on termine avec les Ramoneurs de manière tout de suite. Le morceau se nomme Sucks. Et en fait, juste après, il y aura quand même les Grimskunk avec Yeah Basta. Et ensuite, je vous laisse avec l'équipe de la nuit. Ciao!